On reprendra ce séminaire avec moi-même, donc le 21 septembre sur Artefact de la violence, où je serai de commenter un objet sculpté, un objet de tranchée de la Grande Guerre. Donc, je vous rappelle que c'est à l'hôtel de Pomereux, donc l'île, on commence à 19h, on finit à 20h30, et c'est un grand avantage, c'est qu'on termine toujours sur un verre de champagne, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui. On a le droit qu'à du café, mais on a le droit aussi aujourd'hui à Pierre Judet de Lacombe, donc directeur du CNRS, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, qui appartient au centre Georges Simmel, et donc helléniste, bien sûr, philologue, philologue, c'est ce que je dis, est idiot, au contraire, j'aimerais l'amener à nous parler un petit peu de la philologie, plus que ça. Ceux qui ont pu lire le livre dont on va parler aujourd'hui ont pu voir la dimension parfois très critique de sa propre discipline, donc spécialiste de la poésie grecque archaïque, d'Eschyle, mais aussi de l'histoire de la philologie. Et bien sûr, la question des langues anciennes, de son enseignement, etc., le préoccupe beaucoup. Donc parmi les livres qui ne sont pas parmi ces livres, un qui n'est pas érudit, mais qui est directement... Enfin, qui n'est pas directement lié à son érudition, mais qui est lié à une intervention dans la cité, dans le débat civique. Donc, L'avenir des anciens, oser lire les Grecs et les Latins, donc aux éditions Albin Michel en 2016. Éventuellement, il nous dira un mot de comment il voit, au fond, aussi cette discipline très particulière dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, et donc, pour en parler aujourd'hui... Avec nous, donc, ce petit livre, Le cas Homère, autour de, au fond, de deux conférences d'une jeune Nietzsche, donc, sa conférence, sur Homère, donc, à Bâle, en 1869. Nietzsche n'est pas encore philosophe à cette date, mais philologue. Et puis, une conférence donnée deux années auparavant, en 1867, sur le combat des poètes en Evée, donc, un combat, une dispute. Hein, entre Hésiode et Homère, dont Hésiode serait sorti vainqueur. Voilà, et donc ces deux textes de Nietzsche, d'ailleurs étonnants à lire. J'ai d'abord, comme un imbécile, si je puis dire, lu la préface de Carlotta Santini, puis la postface de Pierre Judet de Lacombe, longue postface, et puis dans cet écrin, j'ai attaqué les deux conférences de Nietzsche, et évidemment j'ai compris à ce moment-là pourquoi il avait pu paraître important de les rééditer. Je ne sais pas si c'est c'est pas la première édition en français.
Pour la deuxième, c'est la première édition.
Pour la deuxième, c'est la première édition en français. Et donc cette question homérique, donc... Et peut-être on pourrait le prendre de cette manière. Pourquoi, au fond, éditer ou rééditer ces deux conférences de Nietzsche? Quelles sont leur actualité? C'est lié aussi, bien sûr, à cette question homérique que tu vas un petit peu nous résumer, cette question de la personne ou de la non-personne d'Homère. Peut-être peux-tu nous dire d'où ce livre vient.
En deux mots, c'est que Nietzsche était donc très jeune, c'était le plus jeune professeur. Ordinarius, comme on dit, il avait tous les titres à Bâle, il n'avait pas 30 ans, et à l'époque on nommait comme ça plus facilement les gens, et donc c'était un philologue très doué, extrêmement doué. Alors il est resté toute sa vie, après il est devenu philosophe, il y a 10 ans après il a abandonné l'université, mais il est devenu philosophe, mais tout en restant philologue, c'est-à-dire un intérêt pour les textes. Et c'est vrai que Nietzsche a eu une importance mais phénoménale ensuite dans toute la critique littéraire au XXe siècle et encore maintenant dans la philosophie. La plupart des philosophes français sont nietzschéens, donc Foucault, etc. Alors là, c'est intéressant de voir comment Nietzsche, comme jeune philologue, pose la question du langage, de l'art et le rapport entre l'art, la beauté, parce qu'Homère, c'est quand même magnifique, quoi, et la science. Quand la science s'attaque à un objet d'art, en fait, elle a tendance à l'analyser, à le détruire, à défaire ce qui fait qu'on aime cet objet. Et donc la science, paradoxalement, la science historique, et notamment la philologie, est en charge de biens culturels, et quand il y met les mains, ces biens culturels disparaissent, puisque Homère devient une série de couches, de textes, de strates, enfin, etc., ne peut plus être l'objet d'une admiration. Alors Nietzsche, qui lui est pour l'art, donc il n'a pas cette espèce, comme je dis, de ressentiment contre la liberté de l'art, la grandeur, etc., il veut montrer qu'une science est possible qu'il soit à la hauteur de ce que Homère ou les poètes ont voulu faire. Et il a, d'une certaine manière, il a raté, puisque après, la philologie est devenue de plus en plus une science, on ne peut pas dire positive, c'est une science des faits, une science analytique, jusqu'à ce que des sciences sociales se reposent à nouveau la question de l'interprétation.
Alors, de ce point de vue, tu es un peu nietzschéen, alors?
Alors, moi, je serais nietzschéen, sauf que je suis un rationaliste. C'est-à-dire que je pense que pour Nietzsche, qui a poussé son idée de l'art jusqu'au bout, c'est-à-dire dans la pensée, il y a en fait des grands artistes, c'est-à-dire des gens qui ont fait des coups, qui ont transformé la manière de voir les choses. Et pour Nietzsche, par exemple, on ne peut pas faire une philosophie des valeurs pour dire que les valeurs, suivant les individus, les époques ou les civilisations, peuvent se discuter entre elles. Ce sont des coups de force. Et on comprend qu'en France, ça est vraiment pris. Moi, je suis aussi de tradition intellectuelle allemande, mais d'un autre côté, je crois qu'on peut discuter rationnellement entre des positions très différentes, et même par rapport aux œuvres d'art. On ne va pas discuter avec un artiste pour lui faire avouer ce qu'il a voulu faire, mais on peut essayer de comprendre l'impact d'une œuvre d'art dans la communauté avec des arguments. Et donc, on peut lire, quand on lit des textes, alors ça c'est la philologie, c'est quoi c'est philologie? Alors en France, c'est la grammaire, hein, ou bien c'est la science des manuscrits, on faisait à la Sorbonne le certificat de grammaire et philologie, alors que dans tous les pays européens et aux États-Unis, philologie, c'est l'art de lire avec méthode. C'est pas plus, quoi. C'est l'interprétation littéraire, ou aussi bien des textes philosophiques, historiques, juridiques, etc. C'est l'art de lire de manière raisonnée, avec des arguments. Donc c'est pas plus que ça. C'est-à-dire, alors pour Homère, on a des variantes, et il faut donc, ou bien on choisit entre des variantes, ou bien on explique pourquoi il y a toutes ces variantes.
Alors justement, je t'y amène. Ton introduction est très correcte, très claire. Pour tout philologue, Homère reste l'écueil, l'objet massif, fascinant et résistant, sur lequel viennent se fracasser ou plus pacifiquement s'échouer tant d'hypothèses, de modèles, de certitudes, une provocation infinie. Alors tu peux...
Oui, parce que c'est vrai que la question mérite. Combien il y a d'Homère, qui a fait ces œuvres gigantesques, combien de temps ça a pris, avec quels moyens, écriture, pas écriture, qu'est-ce que c'est que la cohérence de cette œuvre, le rapport avec la société, etc. C'était un Big Bang vers 1800. C'est-à-dire qu'on peut dire que la question homérique, ça a été en Allemagne, parce que les Français ont résisté, les Anglais, bon, ils avaient une autre manière de voir, empiriste, mais en Allemagne, c'était la question qui a fait naître l'idée d'un rapport historique à la réalité, à la société, et d'une science de cela. C'est vraiment la question homérique, c'est pas simplement une petite question de philologue pour savoir si le chef-d'œuvre qu'est Homère, qu'on enseignait dans les écoles, c'est vraiment un chef-d'œuvre ou si c'est une production historique simplement. C'est beaucoup plus que ça. C'est comment peut-on traiter de manière rationnelle, c'est-à-dire scientifique, avec les méthodes de l'analyse, de l'interprétation, le fait que l'homme est un être historique. Que l'homme change et que donc il change ses catégories tout en changeant par ses productions, etc. Donc c'est vraiment faire de l'histoire contre les grands modèles, parce qu'il y avait la querelle des anciens et des modernes, est-ce que les anciens valent mieux que les modernes, etc. Bon, les Français se sont déchirés là-dessus, les Allemands ont dit ça suffit, la Grèce c'est fini, c'est un chef-d'œuvre, c'est des chefs-d'œuvre, mais c'est fini, mais comment traiter notre rapport au temps? Et donc la science, on peut dire, historique allemande est née, et ensuite, alors qui a ébranlé l'ensemble du monde scientifique européen, est née à ce moment-là, parce que comprendre Homère, c'était pas simplement savoir bien lire tous les vers de l'Iliade et l'Odyssée, c'était réfléchir sur les conditions, alors intellectuelles, mentales, mais aussi sociales, culturelles, religieuses, politiques, dans lesquelles ces textes ont pu paraître. Donc c'était un Big Bang, c'est un petit livre d'un... Mais Friedrich August Wolf, qui ferait traduire du très beau latin, qui ferait traduire, parce que ça a eu un choc gigantesque sur Goethe, sur les philosophes, etc. Et ça a lancé, on peut dire, la science historique, sauf qu'après les historiens en ont eu assez de discuter simplement des vers d'Homère, ou de dans quel ordre il fallait mettre les dialogues de Platon, enfin toutes ces questions-là. Et donc l'histoire a pris le dessus dans les universités, puis après la sociologie, la psychologie, etc. Mais ça a vraiment été la question mérite, c'est la question insoluble. On ne saura jamais, sauf si on trouve un manuscrit d'Homère, je m'appelle Homère et je suis né là, etc.
Les chansons faibles.
Les chansons, surtout s'il n'écrivait pas, c'est un peu faible. Mais je veux dire, c'est une question avec... alors c'est vrai que les scientifiques aiment bien aussi les questions insolubles. Mais je veux dire, c'est une question d'intelligence, puisque à la fois on a une cohérence extraordinaire de ses poèmes, et en même temps il est improbable que ses poèmes soient nés d'un seul coup. Donc il faut comprendre à la fois comment dans les productions humaines, quelque chose, une nouveauté absolue apparaît, et en même temps il faut remettre ça dans le continuum de l'histoire. C'est exactement les problèmes qu'ont eu les sciences physiques, les sciences de la nature, où les objets, au lieu de dire voilà j'ai un objet et j'essaie de voir clair, mais en économie c'est exactement du même ordre. On a des objets qui sont, comment dire en jargon, antinomiques, problématiques. Un événement économique est-il le fait d'une causalité qui vient comme ça l'expliquer de loin, ou est-ce que c'est un sujet qui, avec sa rationalité, a pris à ce moment-là la décision de faire ceci ou cela? Vous avez, bon là, on voit les querelles entre économistes, bon, de même entre historiens, ceux qui insistent sur la force de l'événement, de la nouveauté, ceux qui au contraire vont insister sur la continuité. Dans toutes les sciences, on a, comment dire, le réel, ce sont des objets problématiques. Dans les sciences physiques, c'est du même ordre. Et ça, c'est vraiment une définition, on peut dire, contemporaine, depuis 1800, de ce qu'est un objet scientifique. Et la question homérique, c'est ça. C'est pas simplement dire on vient après l'enseignement scolaire sur Homère ou les artistes et on va essayer de voir clair. Non, non, c'est vraiment, on pose un nouveau frais le problème de ce qu'est la réalité historique.
Alors, ça, tu as, à la fin de ton texte, tu as cette. C'est pas tout à fait la conclusion, mais on arrive à la conclusion de ton texte et tu dis, me semble-t-il, cela que tu pourrais peut-être commenter. Il a fallu, ce fallu est intéressant, il a fallu que les Grecs reconnaissent la différence de niveau entre ces poèmes et les autres œuvres épiques pour qu'une individualité finalement se dégage. Or, cette différence ne pouvait être due qu'à quelqu'un, à un poète qui a fabriqué Homère, car il n'y a pas de poésie populaire sans un individu qui lui sert de vecteur. Non pas Homère lui-même, mais un naède qui participait au culte du fondateur de l'épopée et qui lui a donné une forme. Le flux de la tradition orale est devenu poème. Homère n'est pas Homère, mais un nom d'abord générique, un anonyme plus tardif, a pour toujours doté d'une réalité propre par son travail en se sacrifiant. L'auteur est là, efficace et définitivement absent. Outre le fait que c'est quelques lignes, excuse-moi, que je trouve très belles.
C'est Nietzsche,
c'est toi. C'est toi, je trouve que c'est très bien dit. Peut-être que c'est un pastiche, mais enfin, c'est un très bien pastiche. Moi, je me suis rendu compte de rien. Et j'aimerais que tu commentes sur deux points, tu vois, sur cette différence de niveau, sur cette question évidemment capitale, qui est celle du passage, effectivement, d'une poésie qui était purement orale, où les aèdes connaissaient, récitaient des milliers de vers, et qui nous paraît. Et que des auditeurs étaient capables d'écouter pendant des journées entières, ce qui n'est même plus concevable, même au temps de la Grèce classique. Et comment, voilà, cette question de l'oralité, cette question de l'oral à l'écrit, et cette question effectivement d'un Homère créé finalement, et comment et pourquoi, enfin, tu vois, c'est fascinant. Donc,
Non, parce que ce qui s'est passé, bon, Homère, alors Homère, le nom. C'est un nom qui veut dire quelque chose. Hein. Homère, ça s'analyse très bien. Homme, c'est comme homogène, ça veut dire ce qui va ensemble, c'est l'identique, le même, quoi. Et R, c'est la même racine que articulation, donc arthrose aussi. Donc c'est le fait, Homère, c'est pas l'inventeur. C'est l'ajointeur, c'est l'assembleur, celui qui met ensemble, alors, des vers, des mots, des histoires. Donc il est pas créateur, il se dit pas « je suis l'origine ». Donc, alors... Moi, je pense que dès le début, l'Iliade et puis après, un peu après, l'Odyssée, c'est des projets, sont des poèmes construits et les pièces ont pu changer, etc. Et les gens qui ont fait ça très tôt, au 8e siècle avant Jésus-Christ, alors sur les côtes de Ionie, bon, là, donc, ou en Turquie actuelle, ou en Chios, une île grecque en face, qui étaient des villes. C'était des villes cosmopolitiques, là, il y avait des villes de Smyrne, etc. C'était comme des New York, c'est-à-dire que des villes de commerce très ouvertes, alors que les villes grecques étaient encore un peu plouques, quoi, les villes continentales à ce moment-là. Donc c'était beaucoup moins bon, fermé, tandis que là, c'était ouvert sur l'Asie, où il y avait des royaumes derrière extrêmement riches, ils parlaient plusieurs langues, enfin, etc. C'était bon, vraiment comme l'Amérique. Et la Sicile aussi, c'était un peu comme ça. Les extrémités du monde grec étaient beaucoup plus ouvertes que le centre. Et là, donc, il y avait énormément d'échanges, et des poètes ont repris toutes les traditions sur Achille, Ulysse, enfin, qui étaient ultra connues, qui sont même très très anciennes. La forme même, le vers, c'est très archaïque, c'est très ancien. Ils n'ont pas inventé, ils n'ont pas inventé la langue, ils ont mis ensemble. Et là où je pense qu'il y a eu un coup, c'est que, et pour ça que pour moi, l'Iliade et l'Odyssée, c'est encore des poèmes qu'il faut lire, et je dois dire surtout... là, ça te concerne directement. L'Iliade, poème de guerre, comme on ne sait pas parler de la guerre, on ne sait pas parler de la violence. Ce sont des choses dont on a l'expérience, mais on condamne la guerre, alors que les Grecs, pas du tout, parce que c'était comme une civilisation extrêmement brutale. Ils étaient en guerre, ils faisaient des génocides régulièrement. Ça, c'est pas du tout des gens, des modèles, donc on peut dire, au niveau des mœurs. Mais je veux dire, l'Iliade, c'est un poème sur la violence, mais pas, c'est pas l'héroïsme au sens, c'est pas, il y a la belle mort, etc. Ça, c'est pas du tout dans Homère. Faut plutôt bien tuer que bien mourir. Mais c'est un poème sur qu'est-ce qui se passe quand il y a ce déchaînement de violence qui fait que dans une société contre une autre, la société grecque contre la société extrêmement luxueuse, voluptueuse, riche, qui est Troie. Bon. Comment c'est possible? Et le truc, je trouve, le coup génial que fait ce groupe, moi je pense que c'est un groupe d'Aède qui s'est appelé Homère, enfin, qui revendiquait le nom d'Homère, c'est de dire, je prends, non pas la guerre de Troie, comme un feuilleton raconté, un immense roman, une immense épopée, je prends un événement, la colère d'Achille. La colère d'Achille, donc, qui se fait prendre sa captive par le roi Agamemnon, c'est la crise sociale maximale. C'est-à-dire que on a une société, c'est déjà une cité qui fonctionne sur le partage. Le butin, est partagé suivant le rang, suivant l'action. Donc il y a une querelle entre la lutte des classes, entre les guerriers et le roi. Le roi prend plus, mais au moins les guerriers apportent le butin, mais les guerriers sont d'accord. Sauf que là, Agamemnon a une captive, donc ça c'est très très sexuellement pas correct, a une captive, et or elle appartient à Apollon. C'est la fille d'un prêtre d'Apollon, elle est sacrée. Elle ne peut pas rentrer dans ce système d'échange. Donc le prêtre d'Apollon vient la chercher, même il est prêt à payer beaucoup, donc à échanger, mais pour la sortir de ce système de la cité grecque. Ah, mais Agamemnon ne veut pas. Et puis finalement, donc, un devin dit, mais si, il y a une peste qui tombe sur l'armée, et un devin dit, ça c'est parce que tu ne veux pas rendre cette fille. Le Rachid dit, mais allez, prends-la, quoi, donc on va t'en trouver beaucoup d'autres, etc. Et Agamemnon ne veut pas parce qu'il perd son honneur. Donc s'il rend, c'est son salaire, c'est sa marque d'honneur. Donc il prend la captive d'Achille. Et à ce moment-là, Achille pleure, donc il est très sentimental, et il demande à sa mère Thétis, qui est une divinité marine ultra puissante, de demander à Zeus de le venger. Et Zeus décide de le venger en massacrant les Grecs. Pendant des jours et des jours, il y aura la défaite des Grecs. Et les dieux ne sont pas contents entre eux, donc il y a une guerre civile quasiment chez les dieux, il y a presque une guerre civile chez les humains, etc. Donc c'est le désastre. Donc c'est intéressant, c'est de voir que la question que pose l'Iliade, c'est comment fonctionne une société quand il y a quelque chose d'absolument unique qu'on ne peut pas échanger. Une fille qui appartient à Apollon, on ne peut pas l'échanger. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on doit se priver de ça? Et alors, à ce moment-là, et la question que pose Homère, c'est que donc, le système se dérègle, mais, paradoxe des paradoxes, Zeus, qui est le dieu de l'ordre, le dieu de la piété, le dieu qui fait de la hiérarchie, qui fait que les choses sont distribuées, lui-même, il fonctionne, l'Olympe fonctionne comme une cité, Zeus accepte de venger Achille, accepte de détruire presque entièrement une société, c'est-à-dire le camp grec. Et l'Iliade commence par ce paradoxe. Comment se fait, chante la colère d'Achille, après une injurie qui dit c'est vraiment une chose horrible, c'est répugnant cette colère, et qui a fait des milliers de morts qui sont laissés sans sépulture. Mais ça, c'est la décision de Zeus. Or, Zeus, c'est le dieu de l'ordre. Donc l'Iliade commence par le paradoxe l'énigme la plus grande qu'on puisse imaginer. Alors moi, en travaillant sur Homère, parce que par ailleurs, je me suis engagé dans une traduction commentée de l'Iliade, donc j'ai fait les deux tiers. Bon, parce qu'il n'y a pas de commentaire en France, donc ça, c'est tradition allemande, plutôt le commentaire. Moi, je vais vous proposer ça, ou anglais. Et donc, je suis parti de là, je me suis dit, mais le thème de ce poème, c'est pas simplement une histoire mythique, l'histoire de Troie, c'est pas la gloire d'Achille, c'est le paradoxe majeur. Comment le dieu qui fait l'ordre, lui-même qui règne sur une cité bien ordonnée, avec un partage des tâches et des honneurs, a-t-il pu vouloir ce désordre absolu, une impiété absolue? Alors il faut tout le poème pour comprendre, il y a une espèce de ruse de Zeus, c'est extrêmement complexe, et ce qui est beau, c'est que c'est laissé ouvert. Et du coup, la violence se déchaîne et on voit les héros grecs se battre. Alors eux croient se battre avec leur code d'honneur stratégique, etc. Mais en fait, ils se battent pour rien parce que Achille n'est pas là. Et Achille, il s'est retiré du combat. C'est le seul qui puisse vaincre le grand héros protecteur de Troie, Hector. Et tant qu'Hector n'est pas mort, Troie ne tombera jamais. Donc on a un déchaînement d'action très compliqué. Parfois, c'est beaucoup de massacres. Je veux dire, là, c'est un peu pénible. Mais justement, il s'agit de rendre aux auditeurs qui ne vivaient pas dans ce monde, parce que le monde des héros est séparé du monde présent, et aucun auditeur se disait « je vais vivre comme Achille ou comme Hector ou Paris, jamais j'aurai une Hélène, etc. Jamais je vais rencontrer Apollon, ça m'arrivera jamais. » Mais ils vivaient comme ça des expériences exacerbées, et qui, comme ce sont des destins, sont des expériences qu'on peut tenir. Et ce qui est très très impressionnant, c'est la violence. C'est, comme c'était d'un peuple en guerre, il faut apprendre à tuer, il faut apprendre à se faire tuer, il faut apprendre à blesser, il faut savoir ce que c'est que le déchaînement du délire guerrier qui est nécessaire pour aller à l'assaut, et ensuite comment on s'apaise. Et l'Iliade, c'est que c'est magnifique, ça finit sur une scène de conciliation, alors qu'on est juste avant la mort d'Achille. Achille meurt juste après, quelques jours après, et Troie va tomber. Et la prise de Troie est un massacre épouvantable. Ça, c'est un crime contre l'humanité, quoi, véritablement. Et ce qui est intéressant, c'est que les Grecs se sont donné ce mythe-là comme mythe fondateur. Donc rien n'était tabou. Il s'agissait d'avoir cette expérience-là. Et l'Iliade finit sur une scène de réconciliation entre le vieux Priam, qui vient chercher le corps de Hector, et Achille. Et c'est la nuit, on dirait que c'est hors du monde, c'est hors du temps. Ils s'admirent, alors qu'on sait que le désastre va arriver juste après, et là il y a des échanges magnifiques. Donc Homère, ça sert à ça, ça sert à faire que l'expérience vécue des gens. Alors c'était une époque, 8e siècle, où des régimes politiques étaient... C'était compliqué, c'était des royautés qui étaient en train de changer, la tyrannie qui commençait à pointer, etc. Donc on est dans une phase d'énorme transformation. On a parlé de cet âge comme un âge de renaissance. L'écriture commençait à se diffuser. Alors peut-être que les poètes s'en sont un peu servis, mais ils n'en avaient pas vraiment besoin, parce que maintenant on sait qu'on peut composer 12 000 vers ou 16 000 vers sans problème. Ça, c'est les poètes, comment dire, oraux ne cessent pas...
Oui, ça m'a fait. En te disant, j'ai pensé au bouquin d'Alban Bensa sur les Kanaks qu'on avait commenté ici, mais sans grand succès. C'était sur les
Legs. On a travaillé ensemble avec Bensa.
Voilà. Les Kanaks, les poètes Kanaks qui récitent ces ténos sont capables effectivement de réciter à une vitesse effrayante des milliers de vers qu'on chante, qui sont plastiques, qui récitent toute la journée. Et donc effectivement, quand on a lu un petit peu de l'anthropologie
de ce qui se passe maintenant. Donc,
voilà, on se dit que c'est effectivement tout à fait possible.
Alors, la différence, c'est que donc cette poésie orale monumentale, c'était pensée comme un texte. Alors, elle a pu varier. Alors, on débat sur le lieu. Alors, parce que les gens aiment bien, souvent beaucoup de mes chers collègues, encore une idée un peu romantique, c'est-à-dire small is beautiful. Donc d'abord, ce sont des petites récitations un peu à la veillée, enfin dans les palais quand même, et puis après tout ça s'agglutine pour donner une chose réfléchie. C'est toujours l'idée que la spontanéité est première et qu'après la réflexion vient mettre de l'ordre. Après il y a les grammairiens, puis après nous les philologues, etc. Bon, ça c'est une vision tellement naïve de l'histoire, enfin, donc on passe d'abord les sentiments, les sensations, puis après la réflexion, alors que comme si il n'y a qu'à avoir n'importe quel rituel. C'est dans une population dite primitive, c'est une réflexivité, une intelligence gigantesque. Donc moi je pense que cette question, justement, la colère d'Achille comme problème, bon, le retour d'Ulysse, c'est encore autre chose, c'est comment on quitte ce monde où les héros, où les hommes sont comme des dieux, quasiment comme des dieux. Parce que pour les Grecs, je pense que ça, on a du mal. Nous on pense toujours en termes de progrès, plus ou moins, catastrophe, mais on se dit que le futur peut être meilleur, ou réserve du mieux. Donc c'est pour ça que le temps c'est une promesse. C'est un peu comme ça qu'on pense. Même quand le temps se raccourcit dans les décisions économiques, malgré tout, on dit qu'il y aura un mieux. Pour un Grec, pas. Le bien a eu lieu dans le passé. Le bien, c'est quand la guerre de Troie, alors c'est un bien...
Ça existe affreux. Encore chez quelques vieux conservateurs français.
Oui, mais quasiment tout ça. Puis ils lisent Homère, en plus.
C'est-à-dire que... Excuse-moi, je t'ai coupé.
C'est l'époque où des héros ou Zeus choisit qui sera vainqueur, qui sera grand, avec une balance, exactement comme dans le jugement chrétien, quoi. C'est qui a repris les images. Mais c'est le moment de la perfection, qui est terrible, parce que c'est aussi un moment de massacre, et les héros doivent disparaître, puisque nous ne sommes plus des héros. Donc il faut bien expliquer la disparition de cet âge où on peut être presque comme isothéos, qu'on est égal à des dieux quand on est brillant, etc., le divin Achille. Et donc c'est un monde purement symbolique, parce qu'on ne pourra jamais revenir là. Et pour un Grec, il n'y a pas de promesse dans le temps. C'est-à-dire que le temps, il faut éviter de mourir, évidemment, mais surtout éviter de perdre sa liberté. C'est-à-dire on la perd de deux manières, en étant pris par les ennemis ou en subissant le pouvoir d'un tyran. Il faut éviter à tout prix ça. Et être libre, c'est une condition, c'est pas une force intérieure, c'est vraiment une condition. Et donc, les héros, eux, ils n'avaient pas ce problème-là, ils fréquentaient les dieux, etc. Nous, beaucoup moins, enfin, pensait-il. Et donc, c'est une affaire de prudence, quoi. Il faut de calcul, de stratégie. Et les grands modèles homériques, du coup, donnent des modèles d'existence pleins. Donc, c'est des repères symboliques. Mais il n'y a aucune promesse. Et on voit, ça c'est l'Odyssée, quand l'Odyssée, il doit rentrer de ce monde. C'est, alors lui, l'Odyssée, c'est Ulysse contre Achille, il est plus fort qu'Achille. Parce que c'est lui qui a pris Troie avec son fameux cheval, tout ça. Et le problème, c'est pas seulement rentrer chez soi. Mais c'est surtout comment on quitte ça. Comment on quitte ce monde où on peut être égal aux dieux. On a, lui, au début de l'Odyssée, on dit l'homme au mille détours qui a pris la citadelle sacrée de Troie. Donc il a fait l'exploit le plus grand qu'un homme puisse réaliser, même si c'est une horreur, cette prise. Comment on rentre chez soi, c'est-à-dire dans une vie normale, cyclique, où on est un roi avec sa femme, et puis il taxe une petite île, pas riche du tout. Là, bon. Comment on fait? Alors il passe par tous les mondes qui sont pas trois, mais qui sont des mondes, des idées de société, qui sont donc chez Nausicaa. Alors le cyclope, là, c'est vraiment c'est l'anarchie, au sens où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi commune, etc., il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas... Mais bon, il suffit d'apporter un peu de vin pour que ça s'effondre, etc. Le langage, ils sont pas bons dans le langage. Ou bien des cités qui sont les Phéaciens. Là, c'est, comme je l'ai dit, c'est la Californie. C'est-à-dire les Phéaciens, les bateaux vont aussi vite que la pensée. Ils sont guidés que par la pensée, comme l'ordinateur. C'est le monde d'une technique, d'une technologie et des automates, etc. Extraordinaire. Et ça produit le bonheur. Et alors là, pour ne pas être politiquement correct, la personne qui règne, c'est une femme. Donc sur ce monde, et pourquoi? Parce qu'elle fait comme un roi, donc quand il y a un conflit, elle l'apaise, mais elle le fait quand ça lui plaît, pour qui elle veut. Donc il n'y a pas de règle, mais c'est un monde harmonieux. Mais donc c'est la technique poétique, il y a un poète extraordinaire là, qui récite l'histoire d'Ulysse, et c'est le jeu, etc. C'est l'art, c'est la richesse, c'est les beaux vêtements, et c'est les machines. C'est le monde de... Mais donc, c'est une analyse forte, parce que c'est pas ils font pas d'armes, ils font des bateaux, donc ils vont très vite. Et c'est la technique comme ce qui assure l'immédiateté. Or, Ulysse est là, et il est un peu tenté par Nausicaa, il pourrait l'épouser. Il s'en va, mais comme les Phéaciens, ces gens-là l'ont aidé, Poséidon, qui est un peu leur père, mais n'est pas content parce que Ulysse a aveuglé son fils Poséidon, le cyclope, il détruit cette île. Alors c'est magnifique, ça veut dire cette île de la technique qui produit tout et qui fait le bonheur, c'est pas pour nous. Nous, on doit labourer, on doit se battre, etc. Donc là, il y a tout un jeu comme ça sur des idées sociales, pas possible, et Ulysse, finalement, il rentre chez lui. Et là, dernier coup, il se fait avoir par sa femme qui pose une énigme, et il sait pas la raison. Bon, là, c'est autre chose.
Quand on t'écoute, on t'écoutera des heures, hein, je te dis tout de suite. Hein. Tu dis, si on les lit avec précision, les poèmes résistent. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ils résistent.
Ah ouais,
ils résistent de manière absolument extraordinaire.
Ah, ça, c'est un peu mon métier. Bon, puis moi, j'avais un maître, Jean Bollat, qui était un très grand féministe. Alors, il nous avait appris, quand vous êtes devant un texte, même un texte que, hyper connu, Platon, Aristote, Échille, tout ça, vous devez vous imposer, même si vous comprenez quelque chose, de ne pas comprendre. Je veux dire, je ne comprends pas. Le début chante la colère d'Achille, je dois dire, pourquoi il dit colère? La colère d'Achille, c'est bizarre, a pris l'emploi un mot pour dire elle est répugnante. Je ne comprends pas. Je m'oblige à ne pas comprendre, c'est-à-dire, il faut lire tous les commentaires depuis l'Antiquité, etc., ça, bon, faut tout lire. Mais d'accord, il y a toutes ces strates d'interprétation qui parfois sont géniales, parfois on voit elles sont scolaires, elles banalisent. Mais je m'oblige à... Enfin, j'ai tout ça en tête, mais il y a un moment de blanc, comme ça, où je dis, non, je ne sais pas. Parce qu'il faut reconstruire tous les liens possibles entre les traits de sens, les mots, etc., les phrases. Alors parfois, avec mon maître, justement, passer des heures à ne rien dire dans des séminaires, comme ça, parce qu'on se... Vous ne comprenez pas, et celui qui commence à comprendre...
On devrait faire ça sur tout texte d'histoire, à mon avis.
Et en fait, vois, non, mais, bon, mais moi, j'ai appris énormément par là, et c'est comme ça qu'on découvre. Et là, je viens de travailler en Italie, un seminaire des acteurs, c'est pareil. Les bons acteurs, les bons metteurs en scène, ils se disent, qu'est-ce que c'est quoi Hamlet? Je comprends pas. Et du coup, ils font un travail très concret, c'est un travail d'artisanat, quoi. Vers par vers, eux, c'est bon, c'est aussi mon addiction. Et là, je me le rencontre énorme. Et souvent, on voit nos chers collègues, ils arrivent.
Après la vente.
Ils ont des modèles tout faits, ils les appliquent, et après, on se bat modèle contre modèle. Et c'est comme dans la querelle homérique entre les philologues. Ceux qui disent il y a plusieurs homères, mais non, il n'y en a qu'un.
Bon, mais, c'est ce qui s'appelle traverser les textes sans les voir.
Voilà, c'est on survole, et puis on. Là, c'est un peu paysan, quoi. C'est-à-dire. Et du coup, je veux dire, ça m'a donné un plaisir fou, parce qu'on voit beaucoup mieux ce que c'est que le langage. Et la philologie, c'est quoi ? C'est l'amour du langage pour voir ce que le langage peut faire. Alors, et c'est là qu'on on verse aussi dans la philosophie, parce qu'on ne peut pas simplement regarder Homère, parce qu'il faut avoir des idées, dire mais c'est quoi le langage ? Et donc là, on dit les linguistes, puis ils ne sont pas d'accord entre eux. Bon, puis c'est là qu'on voit les politiques d'enseignement, donc c'est une grande chose.
Peut-être qu'on veut. Je te questionnerai tout ça pendant des heures, donc il faut que je me retienne. Hein. Donc,
moi aussi. C'est, voilà.
Alors, qui voudrait poser une ou deux questions à Pierre Gilles de la Combe ? Je sais que Jacques a le livre en main. D'autres, d'ailleurs, oui, beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, en main. Éric, tu as quelque chose à demander ?
Non, c'est tout à fait fascinant. Moi, j'aurais aimé que tu puisses dire deux mots, peut-être justement, pour moi, cette querelle de cette proposition entre Homère, le poète de la guerre, et Hésiode, et comment on a pu créer avec Hésiode, et comment Hésiode peut constituer un modèle qui finalement l'a emporté sur le texte, sur quelque chose d'anti-héroïque quasiment. Enfin,
c'est
l'anti-héroïsme parfait.
Alors ça c'est vraiment intéressant parce que cette querelle est sans doute une fiction. Enfin, c'est une fiction d'un coup sûr parce que Hésiode, alors là les philologues se battent pour savoir, c'était avant, après bon, moi j'aimais l'autre. Si on ne se bat pas, la haine philologique c'est quand même une chose qui nous...
Ah oui, vous aviez beaucoup, oui, oui.
Mais c'est comme
je t'en reparlerai, mais je t'en
c'est comme vous. Et c'est un peu après. Alors après les anciens ont construit parce qu'ils avaient deux modèles complètement opposés. Alors justement Hésiode, il fait des poèmes très courts, enfin c'est 1000 vers, alors il y a 16 000, Odyssée 12 000. Et sur le. Alors d'abord la naissance des dieux, mais la naissance des dieux, c'est l'origine de la philosophie, on peut dire, parce qu'il s'agit de déduire ce qui est et ce qui vaut, ce qui est important, aussi bien politiquement, moralement que par la nature des choses, à partir de principes. Donc il construit ce qu'on appelle la théogonie, la naissance des dieux, qui débouche sur l'engendrement par Zeus de justice, dike, la justice, mais c'est la justice pour les hommes, qui les dieux n'ont pas ce problème de. Ils ont des conflits, mais ce n'est pas réglé. Il y a une justice spécifiquement humaine. Ça, c'est la fin de la théogonie. Après, il fait un autre poème qui s'appelle « Les travaux et les jours ». Il dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette justice ? Pourquoi avons-nous besoin d'une justice ? Et pourquoi devons-nous travailler ?» Alors, le mot pour dire « travail », c'est « ergon » ou « ergonomie ». Mais on oublie que, en fait, c'est l'exploit. « Ergon » en grec, ça veut dire « l'acte ». C'est ce qu'on accomplit. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas un mot spécifique pour le travail. C'est même le mot qu'on emploie pour dire quand... Hector tue Patrocle, c'est un ergon, c'est un exploit. Quand le méchant Égiste séduit la femme d'Agamemnon, Clytemnestre, et pour ça il tue celui qui l'a gardé, c'est un ergon. Bon. Donc pour Homère, il y avait ces grands actes qui étaient dignes de mémoire. Et Hésiode dit, nous sommes héroïques, mais dans le travail. Pourquoi ? Parce que, ça c'est aussi magnifique, les dieux nous ont caché la vie. C'est-à-dire que le bios, qui est à la fois la vie qu'on vit, et c'est la ressource, c'est le blé en fait. Les dieux l'ont caché, c'est-à-dire qu'il faut le faire sortir de terre. Et donc l'homme, au départ, il est démuni de tout, et son exploit, c'est de faire sortir donc la richesse de la terre qui est cachée, donc il faut la produire. Et pour ça, mais pour la produire, donc à tout de suite au problème du rapport entre moyens de production et structure de production, comment faire ? Il faut une justice pour répartir les moyens de production, parce que le frère, Hésiode s'invente ou ne s'invente pas, un frère, qui s'appelle Persès. Persès, c'est le pilleur, c'est le prédateur. Donc, on lui dit, preneur de ville, pour Achille, par exemple, ou Ulysse, c'est Perceptolis, celui qui va prendre une ville, parce que Achille ne produisait pas, il pillait, évidemment. Alors, lui, Persès veut faire pareil, il veut prendre tout le bien de son frère. Alors, là, Hésiode a cette phrase extraordinaire, il dit, mais la moitié vaut plus que le tout. Si on répartit, justement, on aura plus de richesses que ce que va produire le tout tenu par un seul. Donc c'est une ouverture du temps, donc c'est un côté très moderne, c'est-à-dire l'homme doit travailler. Pourquoi ? Parce que l'homme ne vit plus dans l'âge d'or. Après, il fait tout un mythe pour dire pourquoi nous sommes, au départ, nous étions quasiment comme des dieux, et finalement il y a une différence qui fait fait que nous sommes des mortels, donc c'est vraiment une pensée de la finitude, quoi, de l'être humain fini qui n'existe que par ses actes. C'est ça qui est important. On n'a aucune consistance par nous-mêmes, on n'a aucune nature forte en nous, on n'existe que par l'énergie de travail et ensuite par la justice qui doit régler les rapports de production. C'est magnifique, mais c'est exactement le contraire d'Homère. Et Hésiode, aussi son nom, parlant Homère, c'est celui qui assemble, Hésiodos, alors c'est une des interprétations, moi je me suis rallié, c'est celui qui envoie la voix. Hési, c'est Yemi, envoyé, et Odos, c'est comme dans Ode, le chant. Et donc il envoie la voix, donc c'est intéressant, on lui se pose comme origine. Les muses m'ont initié. Elles m'ont dit, toute cette épopée, tout ça, c'est faux, toute cette idéologie du héros, etc., c'est faux. Et lui, il vient, c'est un réformateur, on pourrait dire, lui, c'est comme un prophète de la Bible. Il vient pour dire, c'est comme ça qu'il faut vivre, qu'il faut prier, qu'il faut travailler, etc. Donc il donne une vision du monde actuelle. Et il fait la théorie aussi du fait que nous ne sommes plus des héros, c'est fini. Alors que Homère, tout ce qui est de l'ordre de la cosmologie ou de la cosmogonie, d'où nous venons, quels sont les principes, il le cite, mais en s'en manquant. Parce que Homère, alors c'est vraiment l'opposé. Lui, c'est la situation. Ici, maintenant, enfin, la colère d'Achille, ou tout ce que Ulysse doit affronter, c'est à partir de là qu'on reconstruit le sens des dieux. On ne va pas faire un discours qui part de l'origine pour ensuite dire comment on doit vivre. Homère ne dit jamais comment on doit vivre. Il laisse ça ouvert. Ulysse, à la fin, il rentre chez lui, il massacre tous ces jeunes gens, là, les prétendants qui veulent prendre sa femme. Bon, une cruauté infinie. Puis après, ils s'apprêtent à massacrer leur père. Bon, et là, Athéna et Zeus se l'arrêtent. Mais il n'a pas les moyens, Ulysse, de vivre dans le temps présent. Lui, c'est que c'est un héros, c'est tout ce qu'il sait faire. Il est rusé, il sait s'en sortir, mais il ne produit pas un monde. L'Odyssée s'arrête là. Alors Hésiode, alors les deux sont complémentaires en fait, mais Hésiode dit, voilà, ben, le monde du présent, on peut rendre hommage à Homère, donc Hésiode compose dans le langage d'Homère, dans le même maître qu'Homère, etc. Mais l'ergon, l'exploit, nous c'est le travail. C'est ça qui est, donc, c'est une pensée économique. Alors des interprètes ont dit oui, c'est parce qu'il est en Grèce continentale et Homère sur la côte orientale, ou bien les situations avaient changé, ça je pense pas du tout. C'est vraiment deux positions, c'est l'une par rapport à l'autre. Et donc il y a un conflit tout de suite.
Jacques ?
Merci beaucoup. J'avais une question sur le concept même d'auteur. En fait, est-ce que ça avait un sens ? À partir de quel moment cette interrogation sur l'existence d'un auteur a pris un sens ? C'est-à-dire, est-ce que pour les contemporains, est-ce que pour les Grecs du 6e siècle, ça avait un sens de poser la question de savoir qui était Homère ou s'il avait existé ? Est-ce qu'on sait quand cette question finalement apparaît ?
Elle apparaît au 16e siècle. Une question moderne. Ouais. Homère n'est pas Homère, c'est le 16e siècle. Et après, ça a été. Alors maintenant, quasiment personne dirait que Homère est Homère. Mais je veux dire, même si on dit qu'il y a un auteur de l'Iliade et l'Odyssée, on dit que c'est pas Homère. Donc, ça, en fait, on n'en sait rien. Mais je veux dire, mais c'est vraiment une question importante parce qu'on peut. Bon, les Grecs, aucun Grec n'a jamais douté de l'existence d'Homère.
On pense quand même, il y a quand même le concept qu'il y a. Il y a un auteur.
Alors, il y a quelqu'un. Alors, qu'est-ce que ça ? Alors,
C'est quoi un auteur ?
Alors, ça, c'est absolument passionnant parce que.
En même temps, tu dis qu'il y a un effort philologique pendant à l'époque d'Alexandrie.
Oui, alors
là, on classe. Que la question se pose déjà de la nature du texte.
Quand il y avait trop de contradictions entre deux parties d'Homère, ils disent bon, ça, c'est pas d'Homère. Eh bien, ce poème contredit tel autre. Ça, dès le 5e siècle. Ce poème, on dit qu'Hélène et Paris sont mis tant de jours pour faire venir de Grèce à Troie, puis là on dit qu'ils ont mis tant d'années, ça marche pas, donc ça peut pas être le même auteur. Bon. Mais pour un grec, l'auteur n'est pas la source. C'est pas comme pour chez les modernes, on aurait une volonté, une liberté qui s'exprime comme ça. Pour les Grecs, il y a des textes, donc il y a nécessairement quelqu'un, parce qu'il faut que quelqu'un porte ces textes. Plus Homère, était mythifié, il y avait un culte d'Homère, et donc je pense qu'on a. Là, je me détache un peu de mes collègues, on a commencé à raconter des histoires sur Homère, des histoires extraordinaires sur sa vie, je ne dirais pas dès son vivant, mais dès que les textes ont été, donc dès qu'on a rendu un culte à lui, donc dès le 8e siècle. Mais auteur veut dire simplement que tout ça est bien réel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le garant de tout ça. Alors après, on se bat, on a d'abord donné beaucoup à Homère, et ensuite on a dit non, c'est moins, mais pour des raisons logiques ou des raisons esthétiques. L'Iliade, l'Odyssée, on dit c'est mieux que le reste. Du coup, on a perdu le reste. On n'a que des petits fragments, mais ce n'est pas des preuves philologiques. Ils n'ont ils sont pas allés voir l'ADN sur un manuscrit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une idée ancienne. L'auteur est là simplement comme garant. C'est le signe qu'une œuvre existe. Mais de même que le monde n'est pas fait par des dieux, il n'y a pas de créateur, de dieu créateur pour les Grecs. Les dieux sont dans le monde. Homère, il habite son texte quand même, il est là, et quand il n'est pas là, parce qu'il se contredit trop, on dit ça, on l'enlève. Mais il n'y a pas cette dramatisation de la liberté créatrice. Ça, c'est une idée moderne. Et c'est quand. Là, il y a un philosophe absolument extraordinaire qui a bien analysé ça, qu'on commence à lire, à traduire, mais encore en allemand. Hans Blumenberg, sur le concept de réalité. C'est-à-dire que pour un grec, est réel ce qui est donné. C'est là, donc le monde est là, et on ne va pas chercher un principe divin ou autre, ou un néant à partir duquel ce qui existe apparaît. On analyse. Bon. Et Homère, c'est pareil. On analyse les textes, il faut bien qu'il y ait donc Homère. Après, le réel, dans la pensée moderne, enfin la Renaissance, c'est plus problématique. Comme dit Descartes, on peut douter, etc. Est-ce que c'est réel ou pas? Donc le réel, c'est ce que Dieu me certifie. Bon. Et ensuite, c'est ce que la raison me certifie. Donc le réel est produit par un sujet. C'est le sujet qui, et le grand sujet, c'est Dieu, qui garantit qu'il y a du réel. Alors les gens vont se dire, mais Homère, c'est pas possible quand même, c'est n'importe quoi, c'est barbare, c'est... Donc il n'y a pas pu y avoir un auteur Homère. Ça, c'est la grande querelle des anciens et des modernes. Donc Homère n'a pas existé. Donc c'est ce qu'on a dit dès ce moment-là. Ça commence à la Renaissance. Et pour nous, contemporains, c'est beaucoup plus intéressant. Le réel, c'est pas ce qui est donné, c'est pas non plus ce qu'on peut construire avec les catégories de la raison, etc. Le réel, c'est ce qui est problématique. C'est la nature, la lumière, c'est des ondes ou des particules. L'éther, ça existe ou ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut aller plus vite que la lumière ou pas? Bon, c'est ce genre de problème. Et Homère, c'est comme je le disais, il existe parce qu'il fait l'objet de débat. C'est-à-dire, Homère, c'est l'histoire, c'est continu, donc c'est une tradition continue, ou c'est un génie. Bon, l'idée même de génie, celle qu'on a substituée à l'idée d'auteur, c'est intéressant parce que le génie, c'est la liberté qui s'exprime, donc Victor Hugo, Goethe, qui change toute la littérature, la langue française, allemande, tout ça. Et en même temps, dans l'idée de génie, il y a l'idée de divinité, c'est-à-dire, c'est comme si c'était une force de la nature. Et la nature, c'est le contraire de la liberté. La nature, c'est un déchaînement de puissance, et de manière causale. C'est pour ça qu'on dit que les grands poètes, ce sont des alcooliques, etc. Parce qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Donc ce n'est pas le sujet cartésien. Et donc, nous, nos catégories sont problématiques. Alors après, il y a eu des gens en Allemagne, et beaucoup de philologues, malheureusement, sont tournés vers le nazisme parce qu'ils avaient une vision héroïque, comme ça, donc ils ont accepté les mythes nazis, tout ça, et puis comme Hitler se voulait pro-grec, donc ça marchait très bien là. Et l'Allemagne, pour ça qu'il n'y a plus la philologie classique est allemande, a entièrement disparu après la guerre, parce que les bons philologues étaient juifs, ou quelques-uns sont restés, mais ça a disparu, donc il y avait une vision héroïque. Alors après, on a dit, non, c'est l'auteur. Ce génie qui crée spontanément des choses, même sans le savoir, c'est pas des individus, c'est la société. D'où les sciences sociales, une certaine manière de les voir, on dit voilà, Homère est un produit social, Homère est une construction sociale. Parce que la société produit des choses, mais sans le savoir. Mais c'est intéressant, c'est toujours des antinomies, c'est-à-dire le même phénomène est vu de deux points de vue différents qui sont associés. Et pour moi, le travail du scientifique, c'est pas de foncer là-dedans en disant voilà, je prends telle option ou telle autre, c'est de dire, voir comment les objets, c'est les textes, ont été construits par l'ensemble des traditions, avec quelle idée du réel, quelle idée du langage, et donc de débrouiller ça. Et ensuite, accepter, quand on lit de l'Homère, d'aller dans un sens en disant voilà, Homère, c'est la tradition, c'est la continuité, tout ça, et ensuite d'aller dans l'autre sens, en disant oui, mais c'est une rupture, il a, en montant ces mots de traditionnels d'une certaine manière, il produit de nouveau. Donc c'est un peu dans. Voilà, c'est une science instable.
C'est par là que tu te rattaches aux sciences sociales?
Ah bah, moi, complètement. Moi, je suis littéraire, donc philologue, et moi, je me suis occupé beaucoup d'un centre de recherche philologique à Lille, puis j'ai voulu vraiment venir à l'HESS, parce que j'avais travaillé avec des gens comme Bourdieu, etc., mais je n'étais pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais je me dis, mais le seul moyen pour donner une valeur à ces textes, c'est pour ça que j'ai traduit aussi, parce que c'est pour le théâtre, tout ça, c'est de voir comment ces textes sont dans leur milieu. C'est vraiment ça. Alors, pas simplement le truc un peu gnangnan qu'on dit, il faut connaître le milieu pour... voilà. Non, c'est une relation tendue. entre des événements, des libertés, on peut dire, qui surgissent, mais qui surgissent à partir d'un donné, qui est transformé, etc. C'est ce jeu-là. Et là, il n'y a que... quand on fait des études littéraires, purement littéraires en France, parce que là, c'est un grand... ça faudrait aider l'université à changer, c'est qu'on a des... en fonction des concours de recrutement dans les lycées, on a des... donc on enseigne le français, on enseigne l'histoire-géographie, on enseigne les mathématiques, on a construit l'université selon ça. Et donc c'est des départements hyper fermés. Donc si on fait de la littérature, on ne fait pas de la philosophie, on ne fait pas des sciences sociales. Même pour la Grèce, si on fait de l'Homère, on ne fait pas de l'Aristote. Ce qui est, alors que c'est la même culture. C'est pour ça que moi j'ai voulu venir, je ne veux pas faire l'éloge de notre maison, mais quand même...
Bon, tu peux de temps en temps, mais on en dit beaucoup de mal par ailleurs, non, mais même.
L'école des hautes, comme on dit, des hautes études, c'est que le... il n'y a pas de département. Ouais. La preuve, j'ai pu travailler avec Bensa sur les poésies kanak. Même on a fait venir un aed et interprète kanak.
Non, j'ai pensé tout de suite en faisant.
Et on a en séance, alors moi je me permettais d'intervenir sur le kanak dont je ne connais pas une syllabe, bon, simplement parce que je voyais les répétitions, etc., voir comment c'était fait. Et on peut se parler.
Incroyable ça.
Mais c'est des choses.
Ça, c'est vraiment une expérience.
Ah, c'était magnifique.
Et sens social.
Bon, pas avec des philosophes, même avec les économistes, parce que. C'est quand on fait la logique des questions scientifiques. Bon, en ce moment, il y a le terrain qui est intéressant, le terrain commun. Mais la logique des questions scientifiques, elle est, moi, je disais que je suis rationaliste, je pense qu'elle est un peu la même partout. Je ne crois pas qu'on ait des positions intellectuelles complètement éclatées en fonction de son instinct, de je sais pas quoi, de sa nationalité. Bon, il y a des traditions, mais aussi la discussion entre savants peut être réglée, je pense.
Et ta discipline aujourd'hui, avec le cas de la langue grecque dans la société d'aujourd'hui, quand on t'entend, on se dit, mais voilà, est-ce que dans un demi-siècle, il y aura qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu nous dis là dans ce oser lire les Grecs et les Latins, tu vois, qu'est-ce que tu préconises,
non mais ça c'est un
vrai débat. Voilà, je trouve que c'est important.
Est-ce que je vais me reproduire?
Pas
l'identique.
On a une certaine angoisse si tu veux, tu vois, quand même. Tu vois.
Non mais il y a de quoi parce que là, bon, maintenant on a changé. Bon, le nouveau ministre qui est un pragmatique, qui connaît bien les sciences cognitives par ailleurs, donc il a mis le langage au centre de ça. De la formation. Il a parfaitement raison, mais ce qu'on appelle langage. Et moi, il ne s'agit pas de dire qu'il faut lire les Grecs et les Latins. La culture grecque, en tant que culture, je veux dire, ne m'intéresse pas, il faut la connaître, mais c'est pas une culture dont on puisse s'inspirer vraiment. Même la démocratie grecque, heureusement, on n'est pas dedans, parce que c'était quand même un régime mafieux, je veux dire, terrible, quoi. C'était pas l'air. Bon, donc, autant de pas. Bon, c'était très bien qu'il soit.
Pas l'idéalisation.
Voilà. Mais il y a plusieurs choses. Il y a, bon, d'abord, quand même, ces cultures-là, c'est notre passé, c'est pas notre origine, c'est. Sauf pour la culture latine, parce que le droit romain, tout ça, c'est le nôtre. Bon, les paysages qu'on voit, c'est... En gros, le monde latin s'est effondré avec la Seconde Guerre mondiale. Bon, enfin, les campagnes, mais sinon... Mais, bon, l'Église, etc. Mais la culture grecque, c'est des parents d'adoption. C'est-à-dire que l'Occident a à plusieurs reprises décidé de se donner les Grecs comme origine. Donc il a construit une Grèce qu'il a idéalisée. Donc on n'a pas un rapport neutre. Bon, ça, c'est une première chose. Donc je pense qu'il ne faut pas ignorer cette... ce qu'on a fait comme travail historique, et tout ce qui a été d'avant-garde très nouveau pendant très longtemps, que ce soit en philosophie, en art, en politique, c'était toujours un retour aux anciens. Parce que le retour aux anciens permettait de se détacher du présent. Bon, et donc le geste de la Renaissance, c'est ça, on va chercher chez les Grecs et les Latins pour ne pas faire comme font les contemporains. Donc c'était révolutionnaire. Après, c'est devenu plutôt routinier, bon, etc. Donc je ne pense pas que... Sauf qu'il y a une demande, moi je vois, je travaille beaucoup avec le théâtre, des gens comme ça, même chez les écrivains, il y a une demande de grandes œuvres. Il y en a un peu assez de cette espèce d'immédiateté, de tout le monde peut écrire, etc. On demande d'être confronté même à des grandes œuvres, même contemporaines, mais je veux dire que, voilà, que ça soit, que ça résiste.
Et que les
artistes puissent inventer, parce que ça résiste tellement qu'ils ne peuvent pas se projeter simplement. Et ça, ça me rend plutôt optimiste, et même, je dois dire, sans être démagogue, quand on voit le rap, tout ça, il y a une demande de forme, donc il y a une demande de régularité, bon, c'est quand même, moi, c'est de la métrique, quoi. Et ça, il y a une demande de quelque chose de difficile, quelque chose qu'on là, je suis un peu moins pessimiste qu'avant, je veux dire, quitter ce régime de l'immédiateté. de la satisfaction immédiate des désirs passée par des médiations. Or, pour moi, le langage, c'est la médiation suprême, et ça, c'est tout un débat, et je suis en train d'écrire un texte pour Esprit, justement, parce que ou bien le langage, on dit, c'est la communication, donc on communique des informations, ou des avis, dans ce cas-là, autant, puisqu'on parle plus latin, du merci, autant parler anglais, donc il n'y a pas de problème, j'imagine que vous communiquez beaucoup en anglais, mais même dans votre école, beaucoup de cours sont en anglais, sauf que c'est assez misérable. Là.
C'est terrible.
Donc c'est terrible, mais je veux dire, bon, on dit, voilà, langage communique, oui, mais c'est pas que ça, le langage, c'est aussi l'identité nationale ou culturelle. Alors, c'est deux idées qui sont apparemment contraires, donc le global d'un côté, le local de l'autre, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui défendent à la fois, on va mettre l'anglais partout dès la maternelle, parce que c'est ça qu'il faut apprendre, et ensuite on va dire, oui, mais quand même, il faut savoir le français, la tradition, puis alors on va obliger les immigrés à bien savoir français, etc. Alors que leur rapport au français, parce qu'ils viennent de l'Empire colonial, leur rapport au français est un rapport qui n'est pas du tout celui des Français d'origine. C'est un rapport dramatique, de certaine manière. Donc, c'est là où la tradition, disons, plus philosophique dans laquelle je me rattache, c'est-à-dire le langage, c'est pas un code pour simplement transmettre des informations comme ça, c'est pas non plus l'expression d'une identité dans laquelle on a plusieurs, merci, bon, on a une, mais c'est une histoire. Le langage, les gens disent, voilà, c'est ce qu'on appelle ça linguistique de la parole et non pas linguistique de la langue. La langue n'est pas un code, c'est une somme d'usages. C'est historique. Et donc, apprendre la langue, c'est bien parler, bon, effectivement, ça faut, on ne fera jamais assez d'efforts, c'est apprendre le langage en tant qu'expérience historique. Et la lecture, notamment la lecture des grands textes, mais qu'ils soient latins, donc anglais ou allemand, etc., c'est ça, c'est accepter une aliénation de soi, c'est-à-dire, je ne comprends pas tout de suite, je m'aliène dans des formes dont je sais qu'elles sont grandes, et pour revenir ensuite. Pour moi, donc, la grande défense, c'est celle de la traduction. Mais qui n'apparaît, par exemple, quand j'ai fait ce livre, j'ai regardé les programmes, la traduction, vraiment, dire de prendre une phrase de, pas forcément Shakespeare, mais peut-être Dickens ou Mark Twain, et la traduire, n'est jamais, jamais, jamais dans les programmes. Parce que la langue, c'est quoi? C'est la capacité de parler, de discuter, de comprendre, donc de transmettre des informations. Ou alors, c'est la spontanéité. Voilà, je fais mes jeux linguistiques. Mais jamais il y a l'idée, je rentre dans ce que quelqu'un d'autre a dit et qui est fort, si possible dans une autre langue, mais aussi en français. C'est-à-dire que lire du La Fontaine maintenant, du Racine, c'est lire une langue étrangère, même lire du Balzac. Donc de rentrer dans une langue autre, enfin, qui est une autre histoire, mais qui est notre histoire, pour revenir. Et je pense que simplement, le grec et le latin, le grand privilège, c'est que personne ne parle ces langues. Et donc on peut, d'un point de vue démocratique, et ça c'est vrai, c'est pas démagogique de dire ça, dans les périphéries, dans les banlieues, le latin et le grec peuvent servir parce que tout le monde est à égalité. Et en plus...
Personne ne parle.
Et en plus, ce sont des langues, enfin, surtout le latin, c'est en fait assez clair, nominatif, accusatif. On apprend les fonctions grammaticales. De manière, bon, parce que maintenant, on n'enseigne plus jamais la grammaire en français. Mais on est dans un état, je ne sais pas ce que va faire le ministre, là, mais c'est vraiment catastrophique. Quoi. C'est-à-dire, puisque on dit les gamins, ils ne veulent pas, ils sont réticents, donc tout ce qui est métadiscours, discours sur le discours, ça ne marche pas. On ne peut pas dire complètement d'objet direct. Je trouve que il faudrait que le langage devienne et le langage c'est quoi? C'est aussi le langage parlé, c'est le langage écrit, c'est aussi le langage formel des sciences. Enfin, c'est toutes les symbolisations, à mon avis, ça va être considéré comme un continent, comme un objet à apprendre en soi, et non pas simplement comme un moyen. Il faut apprendre l'anglais, évidemment, ça, il faut que tout le monde parle anglais, ça c'est l'une des choses. Il y a une conscience du langage en tant que tel. À mon avis, c'est le... Ce qui est une conscience de l'histoire.
C'est, évidemment. C'est parce que...
L'historicité et de soi-même. C'est-à-dire, quand on lit, j'avais dit dans ce livre, lire, c'est un acte d'histoire. C'est-à-dire qu'on réalise l'histoire, puisqu'on se transporte dans une époque, ou en tout cas dans un discours différent, et on revient. Ça me paraît.
Oui, c'est une opération plus d'aller-retour. Voilà,
c'est vraiment l'aller-retour. Mais il faut accepter cette, alors en jargon on dit objectivation ou aliénation, c'est-à-dire je vais devenir un autre en lisant du Platon ou du je sais pas quoi, ou du Shakespeare ou n'importe quel auteur, ou Tolstoy. Et ensuite je reviens. autant lire des choses qui ont un peu du contenu, parce que non pas des textes comme on voit dans le programme d'efficacité immédiate.
C'est... Et ben voilà, hein, vous avez un programme, il est 9h. Ça a passé vite. Hein.
Paris, c'est vrai. Hein, ça...
Merci à toi, Pierre. Bravo.
Merci beaucoup.